11h-13h, un café l'addition. Le talk show servi par Judith.
11h35 sur One, et il est l'heure pour nous d'accueillir nos invités du jour ici à la table du rooftop 42 rue du Rhône à Genève. Nadine de Carpentrie, bonjour.
Bonjour Judith.
Coordinatrice de transplantation au HUG, tu viens nous parler aujourd'hui d'une belle manifestation absolument essentielle et nécessaire. Ça s'appelle le Marathon, ça a lieu ce samedi 28 juin. Et l'idée, c'est de secouer un petit peu le cocotier des idées reçues, des préjugés, des clichés pour inciter les gens à se poser au moins la question du don d'organes, parce que Nadine, c'est finalement ça, c'est au moins se la poser.
C'est absolument en parler autour de soi, se poser la question, se positionner, qu'on soit pour ou contre, mais en parler avec ses proches.
Et on essaiera de vous encourager à le faire jusqu'à 13h en compagnie de Nadine. À tes côtés, Dominique Martin, bonjour.
Bonjour Judith.
Auteure genevoise qui vient de faire paraître il y a quelques semaines Empreinte saoudienne aux éditions L'Âge d'Homme, un fantastique récit, une plongée incroyable dans l'Arabie saoudite des années 70 puis des années 2011,
hein,
puisque
tu y es retournée. J'y suis retournée.
C'est un formidable récit de voyage. Vraiment le livre que je vous conseille de prendre en vacances avec vous cet été. On va aussi en parler jusqu'à 13h. Il n'y a pas de hasard dans cette émission. J'étais déjà très heureuse de vous réunir toutes les deux autour d'une table. Deux femmes de tête, deux femmes de cœur. Je me disais bien que vous alliez vous trouver. Et puis, dans la série, il n'y a pas de hasard. Voilà ce que je découvre à la lecture du livre de Dominique. Avant de descendre dans le hall, je dévore encore quelques pages du livre que j'ai choisi d'emporter avec moi, De cœur inconnu, de Charlotte Valandrey. J'ai du mal à lâcher ce livre passionnant qui parle de la transplantation d'un greffon et dont le choix m'apparaît soudain tout sauf fortuit et en résonance avec le titre de mon récit, L'Arabie à double cœur. On pouvait pas faire mieux.
Pas vraiment, non, je crois.
On s'est bien trouvé.
Il y a vraiment le lien, c'est incroyable. Hein.
C'est totalement étonnant, mais la vie nous étonne toujours.
Absolument.
Décidément.
Et puis fait les liens, crée les rencontres. Ben oui, absolument, oui. Il faut rester évidemment sur le très positif. Vous avez aussi en commun des femmes d'intérieur au sens premier. La vie intérieure, Nadine, tu y es confrontée tous les jours, évidemment.
Oui,
et ce voyage en Arabie Saoudite, ça a été surtout un voyage très riche sur le plan intérieur pour toi aussi. Hein.
Tout à fait, parce que j'étais tellement privée de liberté, disons extérieurement, je pouvais pratiquement rien faire. Donc je me suis tournée vers l'intérieur et j'y ai découvert pas mal de choses. Des monstres bien sûr, mais des richesses aussi, beaucoup.
Il faut dire que les femmes en Arabie Saoudite ne peuvent pas conduire, ne peuvent pas se déplacer seules.
Non.
Donc elles passent beaucoup de temps chez elles.
Exactement, exactement. Elles ont besoin d'un tuteur pour toutes sortes de choses. Ça peut être le mari, ça peut être l'oncle, enfin un homme de la famille. Et elles ont droit, elles doivent lui demander la permission évidemment de sortir, de faire des études, de voyager, d'accéder aux soins,
de tout,
et d'obtenir un passeport, de tout finalement. Elles sont dans un état de dépendance totale.
Tout ce que t'aimerais toi, hein, Nadine, je t'imagine.
Oui, je pense que c'est tout à fait ce qu'il me faudrait. Absolument.
J'essaie de t'imaginer comme ça.
Ça va être difficile, ça va être très difficile.
Et puis vous avez aussi en commun ce goût des voyages et de l'aventure. Nadine, je rappelle que t'es une follow puisque tu t'es lancée quand même dans l'aventure surréaliste de Koh-Lanta quelques années. C'est un peu dingue, non?
C'était une folle aventure de défi, principalement par rapport à mes enfants. C'est la dernière émission qui est passée à la télévision avant que ça ne reprenne cette année. C'était un truc de ouf, comme on dit. Et quand mes enfants m'ont vu partir là-bas, ils m'ont dit, mais maman, tu vas mourir. Et j'ai eu un instant de panique. Je me suis dit, il va tout m'arriver là-bas. Il m'est arrivé énormément de choses, des très belles, des très mauvaises. Je commence à oublier les très mauvaises. Elles s'effacent avec le temps. Mais une aventure exceptionnelle et unique.
Et voilà, l'aventure, le voyage, oui. C'est aussi quelque chose
qui
te
motive. Ah mais oui, moi j'adore, et comme Nadine, j'adore les défis. Chaque fois qu'il y a un défi quelque part, il faut que j'aille. Je dirais pas défi physique, non, peut-être pas. Je dirais pas sauter même du plongeoir des 10 mètres, je l'avoue. Mais à d'autres niveaux, je suis... Dès qu'il y a des difficultés, ça me stimule.
Bon, on va voir si je vous lance un défi jusqu'à 13h. Ouais, ça m'étonne. Ouais, c'est moi qui vais me faire piéger à l'arrivée. Je vais faire attention avec mes deux invités. 11h43 et toujours en compagnie de Nadine de Carpentrie et Dominique Martin, nos invités du jour. On va parler un peu plaisir de la table et quelque chose me dit que les plaisirs de la table, ça doit vous parler à toutes les deux. Je vous sens comme ça, très vivante, très dynamique et forcément... Ça passe aussi par l'estomac.
Oui, très très épicurienne, trop.
Jamais
trop. D'où mes rondeurs, mais bon, je les assume. Et puis voilà, j'adore manger.
Mais c'est juste ce qu'il faut comme rondeur féminine.
Oui.
Oui, c'est de la surface à caresse, Dominique.
Absolument. Merci Judith.
On va beaucoup parler de l'Arabie Saoudite avec toi, évidemment. J'imagine qu'au-delà des médecins qui font rêver et qui donnent faim durant tout ton livre, oui. C'est ça qu'il faut le dire aussi.
J'ai beaucoup décrit effectivement les buffets,
des soirées, que ce soit les mariages, que ce soit les soirées privées, etc. Est-ce que tu t'es quand même... Là, tu parles de choses qui donnent toujours très en vie. Est-ce que tu t'es quand même retrouvée à devoir manger une ou deux fois des choses qui étaient peut-être moins évidentes pour une occidentale?
Non, j'ai pas dû manger l'œil, le fameux œil, ouais. l'œil du mouton. Mon mari, lui, il a pas mangé, mais il a été convié à une soirée où il y avait un méchoui. Je pense que quelqu'un a dû le manger, cet œil. Mais non, franchement,
t'es passé entre les gouttes.
Non, j'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau-là.
Non, et on sent que sinon la cuisine orientale t'a plutôt bien convenu.
J'adore, j'ai toujours adoré les cuisines exotiques. Enfin, j'aime découvrir les pays aussi à travers leur cuisine. Et quand nous étions mariés, au tout début de notre mariage, mon mari et moi, nous avions très peu de moyens et on n'arrivait pas à voyager. Et je lui ai dit, écoute, je te propose quelque chose. Donc, je lui ai proposé un tour du monde en faisant des plats complètement différents chaque jour.
Et ben voilà une idée. Voilà. Si vous êtes un petit peu à sec au niveau du budget, effectivement.
Tour du monde culinaire.
Absolument. Nadine, toi,
Moi, j'adore la bonne nourriture. J'ai vécu une expérience, effectivement, Koh Lanta, il a fallu manger tout et n'importe quoi. Oui,
et alors là, il t'en reste encore
Il m'en reste encore quelques saveurs, quelques mémoires olfactives aussi.
Mets-nous un peu en appétit, là, pour qu'on rêve.
Non, genre des crabes crus, genre des asticots, genre des algues, enfin, ce qu'il y avait à se mettre sous la dent, parce qu'il n'y avait rien.
C'est là que tu te rends compte que quand t'as faim, tu manges,
prêt à tout manger.
C'est ça.
Et ce qu'on nous laisse manger, puisqu'on est suivi 24 heures sur 24 par la régie et par les caméramans, de toute façon, tout ce qu'on absorbe est comestible. On ne nous empoisonne pas en étant à Koh Lanta, mais il n'y a rien et on doit se débrouiller. Donc, tout ce qu'on trouve de mangeable, de comestible, ça va dans la bouche directement.
J'imagine le gueuleton que tu t'es fait en revenant.
Non, mais en revenant, mon mari m'a entendu revenir, on l'a prévenu que je rentrais. Je lui ai dit, tu me prépares une entrecôte, une salade de chèvre. Mais j'étais tellement, diminuée avec cette épreuve que quand j'ai vu cet énorme entrecôte devant mes yeux et la salade de chèvre magnifique qu'il m'avait préparée, j'ai mangé un dixième du plat. Je n'avais plus d'estomac, en fait.
C'était juste too much.
Et c'était too much. Et j'ai dormi pendant deux jours.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'imagine que depuis le temps, t'as récupéré ton estomac.
Ouais.
Et au vu de la carte ici au rooftop, on devrait trouver de quoi se faire plaisir. On passera à table un petit peu plus tard. Avant ça, on va déjà parler du marathon et de l'empreinte saoudienne. Rendez-vous dans quelques minutes après une très courte pause et après Katy Perry.
Du lundi au vendredi, un café l'addition avec Judith.
Et c'est le Rooftop 42 qui nous accueille toute cette semaine au 8e étage du 42 rue du Rhône, un magnifique restaurant avec une vue juste surréaliste et deux invités en or autour de la table aujourd'hui. Dominique Martin qu'on retrouvera dans un instant pour parler de son nouveau livre Empreinte saoudienne. Avec nous également Nadine de Carpentrie, coordinatrice de transplantation au HUG. Le Marathon 2014, vendredi, samedi. Vendredi plutôt pour les professionnels avec une conférence médicale. Et puis samedi, un bel événement public, festif, dont on reparlera dans un instant. Je voulais déjà qu'on parle un peu la problématique justement du don d'organes. Est-ce que malgré les années, tu as l'impression que la gêne, elle est toujours aussi palpable et présente quand on parle de don d'organes?
Alors effectivement, puisqu'on se fréquente depuis plusieurs années pour parler de ça, Judith, et je t'en remercie, il est vrai qu'en Suisse, nous sommes toujours la lanterne rouge en faveur du don d'organes. Est-ce que c'est un tabou de ne pas envisager sa mort? Est-ce qu'on se sent protégé parce que nous vivons dans une très belle société en Suisse? On ne sait plus, on sait que nous, quand on est confronté à une mort brutale, pour être donneur, il faut être donc en mort encéphalique, donc une hémorragie cérébrale ou un traumatisme crânien, on s'aperçoit que les gens, quand on annonce brutalement le décès d'une personne, qu'il faut enchaîner sur un deuxième message, le prélèvement d'organes, et nous devons faire vite pour conserver en meilleur état que ce soit les organes, il faut parler très vite de sa famille. Et quand on vit l'horreur, la douleur, l'injustice, le destin de la personne qui décède, voire même d'un enfant qui décède, qui n'a rien demandé à personne, qui décède brutalement, si la famille effectivement n'en a pas parlé avant, il est très difficile pour nous de passer sur un second message qui est très douloureux pour les familles. Et il faut savoir que moi, ça fait quand même beaucoup d'années, 16 ans que je fais ce métier, j'ai eu des familles que j'ai côtoyés lors de la perte d'un de leurs proches qui, quelques jours après, m'ont appelé en disant « Mais qu'est-ce qu'on regrette ? On était tellement sous le choc, on ne pouvait pas analyser le prélèvement d'organes. »
Et après coup, avec un peu de recul, bah mince, on aurait
ils ont regretté, mais bon, c'est trop tard. Nous, on doit mettre quelque chose en route de très rapide pour que les organes vivent. Donc, on est démunis parce qu'on annonce quelque chose de terrible. Moi, la première, je pleure avec les familles, je les accompagne. C'est toujours quelque chose d'émotionnellement épouvantable. C'est vraiment des chocs terribles. Personne n'est prêt à ça, sauf les personnes qui en ont parlé. Parce que la mort fait partie de notre vie.
On rappelle que c'est, mais c'est vrai que c'est pas évident autour du repas familial de dire à un moment, bah, amenons la mort au milieu de la table et parlons-en. Enfin, je rappelle quand même que tout le délice de la vie vient aussi du fait qu'à un moment ça s'arrête, ça fait partie du jeu de la vie. Donc, il faut l'amener sur la table. Juste aussi pour que les gens se rendent compte de quoi on parle. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à avoir besoin d'une greffe, quel que soit l'organe?
Alors, il y a plusieurs pathologies. Il est clair que quand on propose à un patient qui est malade depuis très longtemps, que ça soit pour une maladie cardiaque ou hépatique ou rénale, il arrive à un moment où les traitements, tout ce qu'on a comme possibilité de traitement, on les a épuisés. Il arrive à un moment où les patients doivent aller à la transplantation. Certaines maladies évoluent beaucoup plus vite, comme les cancers du foie, par exemple. Un cancer du foie détecté, on sait qu'on a 6 mois pour transplanter la personne. Mais c'est trop tard.
Ce que je veux dire, c'est que ça peut tomber sur n'importe qui. Un jour, toi, moi, Absolument. Dominique, on peut avoir besoin d'un organe, même si on avait été en très bonne santé jusque-là.
Absolument. Il faut quand même savoir, au niveau statistique, que nous avons 15 fois plus de malchance d'attendre un organe que de donner ces organes. Il y a plus de 1200 personnes en liste d'attente en Suisse pour un organe, quel que soit l'organe, et nous avons en moyenne 12 donneurs par million d'habitants. Ça veut dire qu'on greffe par an à peu près 500 à 600 personnes. Il en reste toujours 700, voire un peu plus, en attente d'une greffe. Et malheureusement, beaucoup de décès dans les listes d'attente. Et adultes.
L'occasion, aujourd'hui, on met le sujet au cœur de la table. Parlez-en avec vos proches. Posez-vous la question pour vous-même. Faites une décision. Prenez une carte. Positionnez-vous pour ou contre, mais en tout cas, positionnez-vous par rapport à cette question.
Il faut en parler pour ou contre. Nous respectons les gens qui sont contre le don d'organes, mais il faut dire je veux ou je ne veux pas. Au moins, c'est clair pour la famille.
On va en parler jusqu'à 13h. On va parler aussi du marathon. Ça, oui. C'est un très bel événement.
Tous les jours, 11h-13h. C'est un café l'addition sur One FM.
Dans un instant, on retrouvera Nadine de Carpenterie pour parler du marathon 2014. Mais place à Dominique Martin et à son magnifique récit Empreinte saoudienne publié aux éditions L'Âge d'Homme. On va essayer de replacer un peu le contexte. Tu es partie en Arabie Saoudite avec ton époux dans les années 70, hein, entre...
Oui, en 75 et j'y suis restée 3 ans jusqu'en 78.
Un départ un peu précipité. Un deuil quelque part jamais fait.
Absolument.
Et l'envie de retourner sur tes pas.
C'est ça, effectivement. Oui, effectivement, nous étions extrêmement bien adaptés et nous avions eu la chance d'être reçus et surtout d'être intégrés dans des familles saoudiennes et notamment dans la famille d'un ministre très très connu dont mon mari était l'architecte à l'époque. Et tout d'un coup, voilà, coup de tonnerre, et nous avons dû partir sans savoir pourquoi. Et j'ai fait une petite enquête, mais bon, ça n'a servi à pas grand-chose.
Et ça t'a hanté longtemps.
J'ai eu l'impression d'avoir... quand je suis rentrée en Suisse, j'ai dû réapprivoiser ma liberté en tant que femme. C'était très difficile. Mon mari, lui, a tout de suite retrouvé un travail. Et ensuite, il s'est passé un certain nombre de choses. J'ai pensé que j'avais fait le deuil de cette Arabie. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était pas le cas. Et je suis retournée en Arabie Saoudite et c'était drôlement difficile parce que obtenir un visa pour l'Arabie, c'est déjà compliqué pour un homme, mais pour une femme. C'est terrifiant. Et voilà, donc j'y suis retournée en 2011 et ça a donné naissance à un deuxième livre. Donc le livre Empreinte saoudienne contient 2 livres. Le livre précédent réédité et un nouveau livre à peu près aussi important que le premier.
Tout ça se passe dans la ville de Jeddah, la deuxième ville du pays après Riyad.
Tout à fait.
À quoi ressemblait l'Arabie Saoudite des années 70? C'est assez rock'n'roll, hein?
Ah oui, très très rock'n'roll, oui, parce qu'en fait, c'était un monde, tout d'un coup, le progrès arrivait dans un monde totalement désorganisé. Donc on
jette les ordures par la fenêtre.
Ah oui, ça c'était rien, ça c'était un petit détail, mais on a vu un transporteur de voitures. Les voitures étaient mal arrimées et heureusement on n'était pas juste derrière. Elles se sont mises à voler. Enfin, on voyait des choses mais absolument ahurissantes tous les jours. Au début, ça nous amusait parce que tu disais, ah mais ça c'est fou, ce que c'est
exotique,
drôle, etc. C'était exotique. Et puis au bout d'un moment, c'était
quand infernal. On vit ça au quotidien,
quand
c'est compliqué.
Ça au quotidien. Donc on a vécu la vie très compliquée des expatriés à l'époque et également on a été projetés dans des sphères saoudiennes absolument incroyables. D'où l'intérêt de cette aventure Et j'ai fait finalement beaucoup de choses en Arabie, hein, alors qu'une femme a rien le droit de faire.
L'intérêt, c'est aussi évidemment ton regard de femme occidentale, blonde, sur ce monde d'hommes. À un moment, tu parles de rêver d'un pays de femmes comme les autres femmes.
Absolument.
Forcément, et on comprend quand il y a aussi, parce qu'il y a les sous, qu'il y a le fait d'être touché, parce qu'il y a une frustration chez les hommes,
mais
qui est aussi extrêmement importante.
Je veux dire, on peut le comprendre, mais évidemment, quand ça vous arrive, on devient un peu explosive, mais
et il faut garder pour soi. On peut pas exploser justement parce que
tout est réprimé là-bas. Hein, je veux dire, la spontanéité, rien n'existe. Hein, c'est quand même le monde des interdits et de la répression, et ça prend.
Et pour faire le lien aussi avec ce qu'on disait avec Nadine, peut-être de nos pays trop riches, parfois il y a ces mots que j'ai notés, entraide, solidarité, fraternité, des mots qu'en Occident on achète pour 1 ou 2 francs, des mots qu'on nous rabâche et qu'il faudrait racler, brosser, lessiver. Ici, ils ont poussé dans le désert, ont été précieusement irrigués, nourris de chair et de sang et non de palabres. Ça rejoint aussi ce qu'on disait, c'est aussi un monde que tu as découvert.
Absolument, c'est-à-dire que j'ai découvert, les Saoudiens évidemment ont été... je dirais un peu désorienté par le pétrole, par l'argent qui arrivait.
Désorienté.
J'avais jamais réalisé.
Désorienté. Quand on est au cœur de l'Orient, c'est pas mal quand même.
Oui, ça évidemment. Alors ils ont été pris dans un espèce de vent de démesure. Donc il y a des gens qui se sont révélés très arrogants, mais j'ai rencontré aussi des gens qui avaient encore en eux un bédouin qui sommeillait. Et c'est chez ces gens-là qu'on retrouvait ces valeurs-là, et d'une manière générale chez tous les Saoudiens, le clan, la famille, c'est très très important. Alors il y a aussi tout le revers de la médaille, mais il y a une grande solidarité.
C'est un récit absolument passionnant et franchement écrit, mais c'est magnifique. Plongez-vous dedans, ça va vous faire voyager du côté de l'Arabie Saoudite et du côté aussi du voyage intérieur que Dominique Martin a vécu à travers cette expérience. On va retrouver...
Tous les jours, retrouvez un café l'addition en direct d'un restaurant de votre région.
Autour de la table du restaurant Le Rooftop, 42 rue du Rhône, 8e étage, ne vous laissez pas avoir, il faut monter pour venir profiter de la vue, ça se mérite et ça se gagne. Ah, c'est un petit peu tôt pour les plats, Camille, on n'arrive pas à garder ça un petit peu au chaud. Tout petit peu, merci beaucoup. Tout se vit en direct dans cette émission. Au moins qu'on puisse manger quand même un peu chaud. Autour de la table, toujours Dominique Martin qu'on retrouvera dans un instant pour Empreinte Saoudienne, avec nous également Nadine de Carpenterie. Le Marathon 2014, vendredi et samedi les 27 et 28 juin en faveur du don d'organes. T'as été très disciplinée tout à l'heure, Dominique, t'as interrompu personne, mais je crois que t'as quand même quelques questions. Hein.
Oui, d'abord j'aimerais dire à Nadine toute mon admiration, tout mon respect pour le travail que tu fais. Je trouve que c'est totalement admirable, mais je me rends compte également que c'est très difficile de sensibiliser les gens à ce problème. Et que il faut que nous tous on en parle, et puis surtout qu'on soit aussi disons par rapport à nous-mêmes qu'on y réfléchisse. Hein.
Est-ce que tu t'es posé la question?
Je me suis posé la question parce que j'ai eu un cas assez proche de moi, je voulais justement alors poser la question à Nadine. Est-ce qu'on peut dire ok qu'on me prélève tel et tel et tel organe, mais pas tel autre?
Absolument. Ouais,
ça c'est une bonne question importante. Hein.
Alors Dominique, oui, merci de l'avoir posé. Effectivement, la première des choses, comme je le disais précédemment, c'est d'en parler autour de soi. La deuxième chose, qui est une pièce officielle, c'est de prendre sa carte de donneur dans une pharmacie, chez son médecin ou dans les hôpitaux ou cliniques. Mmh. Et sur sa carte de donneur, quand vous la prenez et vous la remplissez, vous avez le droit de mettre sur cette carte: je ne veux pas être donneur, comme ça c'est réglé pour la famille. Je suis donneur, mais pour tel et tel organe, ou je donne tout. Et vous avez le droit de dire non, je veux pas qu'on prenne mes cornets, mon cœur, mon foie. Enfin, vous faites le choix. Mais le principal, c'est d'avoir dit ou écrit sur une carte ce que vous voulez faire.
Parlons un peu de ce Marathon 2014. Quand est-il né, en fait, dans quel but?
Alors l'idée est née avec le professeur Manta, à qui j'aimerais rendre hommage, même s'il y a encore beaucoup d'émotions, qui était notre chef de service, nous a quitté brutalement et a créé une fondation il y a 14 ans où nous avons fait beaucoup de choses ensemble pour parler de cette cause. Et puis on a rebondi il y a 3 ans, donc à la première édition, pour dire: on arrête de parler du don d'organes d'une manière négative, puisqu'elle l'est en Suisse de toute façon. On va créer quelque chose de plus festif et mettre quelque chose de positif en avant. Donc nous avons déposé, avec Emmanuel, un infirmier qui travaille avec moi, le mot Marathon, pour dire que les patients qui attendent une greffe d'organes, enfants et adultes confondus, c'est un marathon dans la vie. Et ce mot qu'on a déposé, marathon, don, parce qu'on fait un clin d'œil aux familles de donneurs qui offrent des organes. Cet événement, c'est la troisième. Judith, tu étais avec nous pour la première en phase des HUG. Depuis la nouvelle direction des hôpitaux de Genève de Monsieur Levrin a voulu, le jour de son entrée l'an dernier au 1er juin, participer à ce marathon. Il a été complètement enthousiaste la manière dont nous faisions les choses. Donc cette année, la Fondation Pro-Transplant et les HUG se soutiennent notre événement, nous aident pour créer cet événement. Effectivement, enfin quelque chose de beaucoup plus grand, avec beaucoup plus d'intensité. Il va y avoir le vendredi 27 juin une conférence médicale ouverte à tout public. Ça n'est pas pour les scientifiques, ça n'est pas pour les pros de la médecine. C'est ouvert à tout le monde avec des multiples questions sur le don et la transplantation de n'importe quel type d'organe. Et on clôturera évidemment en rendant un hommage à Gilles Mantin. Et le lendemain, journée festive au Jardin Anglais que la ville de Genève nous a mis à notre disposition avec toute l'après-midi des animations pour petits et grands enfants de tout âge autour du kiosque. Un village avec toutes les associations qui travaillent en faveur du don et de la transplantation. Et à 15h, nous aurons le discours des officiels. À 15h30, nous avons, j'ai fait les comptes hier soir, 400 personnes qui vont défiler dans Genève, à pied ou à vélo, pour parler, pour dire, voilà, on est en vie parce qu'on a eu la chance d'avoir un cadeau d'une famille qui nous a offert un organe. Donc tous ces transplantés vont se balader dans Genève de 15h30 à 17h30 avec des maillots du marathon, en distribuant dans les cartes de donneur si les gens le souhaitent, pour dire que grâce à un don, ils vivent et ils vivent très bien.
Et le soir, un concert exceptionnel au Palladium.
Et à 18h, quand ils vont tous revenir à pied ou à vélo, une tombola magnifique dont j'incite les gens à venir nous aider pour la Fondation en prenant des lots de tombola avec des voyages absolument merveilleux d'une valeur inestimable. Et je remercie tous les sponsors qui l'ont fait pour moi. Et dès 19h30 au Palladium, le concert gratuit d'Amel Bent. Amel vient chanter pour le marathon. Vous pouvez vous inscrire pour ce concert sur le site, comme tu l'as dit tout à l'heure, marathon.ch. On vous attend très nombreux, ce qui permettrait aussi d'ouvrir, parce que Amel va faire des actions par rapport à cette cause, en parler en disant oui, faites un choix, donnez, ne donnez pas, mais parlez-en autour de vous. Et elle accueillera des enfants auprès d'elle, des tout petits qui viennent d'être transplantés et qui sont en pleine forme.
Il faut rappeler évidemment que ça peut arriver à tout le monde. On le rappelle, ça n'arrive pas qu'aux autres. Un jour, soi-même, un de nos proches, un enfant peut avoir besoin d'un don. Absolument. D'organe. Et ce jour-là, j'imagine que tout le monde souhaiterait qu'un organe puisse être donné à un de ses proches. Donc pensez aussi à la situation inverse, à vous être donneur. Et on vous le rappelle, il faut se prononcer. Dominique, rapidement, je sais que tu veux dire
J'avais juste envie de rendre hommage au professeur Manta qui a opéré mon mari qui avait un très très grave cancer et qui l'a sauvé avec d'autres médecins, bien sûr.
Bah voilà, c'était l'occasion aujourd'hui de lui rendre hommage. Hein. Très, mais vraiment rapidement.
Alors, Marina, je te laisse, on parle après.
On parle après, voilà, comme ça, on fait la petite pause repas autour de la table du Rooftop 42, le temps de reprendre un petit peu notre souffle et se remettre de nos émotions. On s'écoute Sam Smith et on revient avec l'actu, à tout de suite.
Un café l'addition sur One FM avec Judith.
Midi 37 et toujours en direct du restaurant le Rooftop 42 rue du Rhône, 8e étage. Comment ça se passe, mesdames, ce petit émincé de veau, Dominique Martin?
C'est un régal et c'est exotique comme j'aime.
Ouais, puis c'est un régal pour les yeux aussi. Et voilà, le cannelloni de saumon fumé.
Excellent.
Ouais, c'est terrible. Moi, j'ai pris une petite soupe de pois glacé au wasabi avec des petites ravioles de foie gras. C'est juste à tomber par terre. Voilà, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance du repas là qu'on partage avec Nadine et avec Dominique. Dominique Martin, empreinte saoudienne aux éditions L'Âge d'Homme. Je rappelle que ça a été un premier voyage, une première vie, 3 ans en Arabie Saoudite, oui, entre 75 et 78 avec ton époux. Et puis, 33 ans plus tard, l'envie de revenir dans tes propres pas.
Oui.
J'imagine que 33 ans après, l'Arabie Saoudite avait quelque peu changé.
Quelque peu changé. Mais par rapport à, oui, par rapport à certaines choses, oui, et par rapport à d'autres, non. Je dirais que bon, ce qui a changé, c'est déjà qu'on a passé, c'est devenu une mégapole. Hein, Jeddah est devenu une mégapole. On a passé, nous on était, quand on vivait là-bas, il y avait à peu près 600 000 habitants.
À 4 millions.
Et à 4 millions, c'est exactement, dingue. C'est le nombre exact, 4 millions.
Mais j'ai lu ton livre, tu sais.
Ah oui, c'est vrai.
Ça aide à voir les chiffres.
Ah, mais je ne me souvenais plus que j'avais donné ce nombre, parce qu'il y a des choses que je sais
tu
que
l'as
pas
dit.
Forcément.
Tu l'as dit.
Je l'ai dit.
Tu l'as donné.
Dit. Si c'est dit, c'est bon. Disons, bon, ça, oui, alors très, très impressionnant, le progrès, la technique. Bon.
Les images, quoi, d'ailleurs, qu'on peut, qu'on peut voir même d'ici parfois au téléjournal,
ces immenses tours
alors qui sortent de terre en permanence.
Ils veulent dépasser la plus grande tour de Dubaï maintenant. Ils font une tour qui va faire 1 km.
C'est moi qui ai la plus longue.
Excuse-moi,
c'est moi qui ai la plus haute. C'est vraiment ce qui se joue là.
Absolument, parce que jusqu'à présent c'était Dubaï, mais maintenant c'est eux qui vont faire la plus longue, la plus grande. Enfin, je veux dire, je sais pas si ça tient, mais enfin bon, on verra. Et disons, bon, alors un pays vraiment, on sent c'est dynamique, ça fonctionne, alors que quand j'étais là-bas, c'était complètement désorganisé, c'était la catastrophe. Et par contre, je trouve que la condition féminine a évolué un peu, très très lentement. Il y a des choses qui se sont passées, les femmes ne peuvent toujours pas conduire, mais le roi leur a promis le droit de vote
pour
dès 2015. On verra si ça se réalise ou pas. Et puis il y a quand même maintenant, alors qu'avant c'était quasiment interdit, moi j'ai réussi à passer entre les mailles du filet, d'autres aussi, on était quand même c'était assez rare, mais il y a des femmes qui commencent à travailler maintenant, mais elles ne doivent jamais être en contact avec les hommes, alors voilà, c'est là tout le problème. Il y en a qui le règlent d'une manière, d'autres qui sont un peu plus permissifs, mais dans l'ensemble, elles ne devraient pas travailler en contact avec les hommes.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu y es allée dans les années 70, tu n'étais pas tenue de porter le voile, alors
absolument.
Que quand tu y es retournée 33
alors
ans
là,
plus
tard,
le voile et la baïa, c'est pas le choix.
Absolument, je devais m'habiller de manière décente. D'ailleurs, j'ai travaillé à la radio de Jeddah, enfin, c'était assez exotique, dirais-je. Il y avait une censure assez terrible. Enfin, tout ça pour dire que même à la radio, je devais quand même m'habiller longue manche, je portais des sortes de boubous. Et puis après, on m'a dit, vous êtes quand même pas très décente. Donc j'ai mis un foulard, mais cette fois-ci, les étrangères sont obligées de porter le voile à la baïa. Et là, je me suis dit, ah, là, il y a régression, effectivement.
Par contre, c'est une expérience dont tu as profité, c'est-à-dire que tu n'y as pas vu que des contraintes.
Tout à fait.
Tu y as trouvé aussi ton compte en étant femme là-bas.
Absolument. Ça a été une expérience. Je me suis dit, bon, d'abord, c'est pour une courte période, donc je vais complètement m'immerger dans cette expérience. C'est le cas de le dire. Je me suis immergée dans beaucoup de tissus noirs. Et en fait, c'était très, très étrange. Quand j'ai revêtu pour la première fois la baïa et le voile, le hijab, j'ai eu l'impression que j'étais une autre femme et que j'étais en train de me transformer, qu'une partie inconnue de moi était en train d'émerger. C'était très très spécial, très bizarre. D'ailleurs, mon mari était un peu étonné de me voir comme ça.
Oui, lui, il a
moyennement aimé.
On le sent bien dans
et
ton
après,
récit.
Et après, j'ai senti une forme de liberté parce que j'étais un peu cachée derrière tout ça. Et j'ai senti qu'une sorte de grâce m'habitait, une féminité, un supplément de féminité.
Comme
étrange.
Quoi. Ah ouais. Et ça fait partie des nombreux voyages intérieurs que
absolument.
Dominique partage avec ses lecteurs.
Oui.
C'est un livre sublime. Ça s'appelle Empreinte Saoudienne. Vraiment, moi, je le recommande en lecture cet été impérativement. Oui, tu peux faire partir Oasis, il n'y a pas de souci, mon petit Dicrane. Empreinte Saoudienne, donc aux éditions L'Âge d'Homme, un récit de voyage, 33 ans avant, 33 ans après. Et évidemment, tout ça à travers les yeux de Dominique et une langue qui est vraiment particulièrement soignée. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu un livre aussi bien écrit. Comme ça, c'est dit. On va finir nos assiettes, on va retrouver nos invités et on s'écoute donc cet excellent souvenir. C'est Oasis avec Wonderwall.